Bonjour à tous, voilà une petite bonne nouvelle du jour. Je ne sais pas si ce sera la seule, j'espère pas. Donc aujourd'hui, lundi 20 novembre, il y a eu le fameux procès des deux jeunes qui avaient été arrêtés pendant les manifestations contre l'inauguration de Minatec et le pôle de Minatec dans toute sa recherche et dans tous ses investissements militaires, etc. Donc le résultat, ils ont été relaxés. Donc ils n'ont pas été jugés aujourd'hui pour refus de prélèvement ADN, mais pour regroupement illégal, pour refus de dispersion après sommation, voilà. Ça fait du bien à tout le monde, c'est quand même un peu rassurant de se dire qu'il reste un petit peu de justice, même si c'est quand même pas forcément toujours le cas. Et puis pour une autre nouvelle, il y aura un autre procès, toujours dans le cadre de Minatec, le procès de trois personnes de Poitiers qui étaient montées à Grenoble pour les manifestations contre l'inauguration et contre le centre de Minatec. Donc ces personnes normalement vont être jugées à Grenoble le 10 janvier. Donc voilà, notez ça sur vos calendriers, préparez-vous. Ce serait génial qu'on ait encore beaucoup de soutien, il y en a vraiment besoin. Et voilà, donc c'est pour vous tenir au courant. C'est vraiment une bonne nouvelle, ça fait vraiment plaisir quoi. C'est vraiment une bonne nouvelle.
Je crois que nous vivons selon les valeurs de la droite. Je veux dire par là que notre tradition culturelle nous a transmis des valeurs fondamentalement de droite. Je veux dire individualiste. Une existence réussie, c'est celle qui permet à un individu de s'élever au-dessus du lot, du commun des mortels. Et le corollaire de cette croyance, c'est le mépris du peuple, de la plèbe, du vulgaire, de la populace. Les démocraties modernes se réfèrent volontiers au modèle des démocraties athéniennes et romaines de l'Antiquité. On oublie que dans ces démocraties, l'accès à la citoyenneté n'était pas automatique. Il relevait d'une sélection, d'une élection. Il me semble, mais je ne suis pas spécialiste, que c'est avec le christianisme qu'un contre-modèle a émergé. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Seulement, à défaut d'être juste, le pouvoir est malin. Et il finit toujours par assimiler ce qui risque de le déstabiliser. Alors il suffit de prélever quelques échantillons d'opprimés et de les accueillir dans le cercle des oppresseurs, et l'ordre établi est sauvé. Alors comme ça, on a affranchi des esclaves, canonisé des martyrs. En fait, c'est toujours le modèle de l'élection, de la distinction, qui fonctionne. On ne change pas le système, on l'affuble de nouveaux symboles. Et ça fonctionne toujours de la même façon.
Salut Daniel, je voulais réagir par rapport à un des messages qui a été diffusé aujourd'hui là sur le répondeur. Ça a tendance un peu à me prendre la tête là, ce côté la gauche est à droite, la droite est à l'extrême droite, mais alors où est l'extrême droite et compagnie, parce qu'avec ce discours là on finit par faire comme Arlette aux dernières présidentielles, c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre Chirac et Jospin, et puis entre la peste et le choléra je ne choisis pas, or il y a des différences entre les gens quoi. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut les soutenir et ça ne veut pas dire qu'il faut se battre pour qu'on file tous un coup de barre à gauche, mais en attendant c'est un discours qui est extrêmement simpliste, et à force de dire la gauche est à droite et à force de dire Sarko est un facho, et bien peut-être que ça soulage ceux qui le disent, mais en attendant ça fait pas avancer les choses quoi. Voilà, à bientôt, c'était Jacques de Toulon.
Eh bien dis donc, ça sera moulu un bondeur de mer, mais alors comme ça maintenant la gauche, faut pas qu'elle se présente aux élections pour laisser la place à Royal. Non, bah, bon, je sais que c'est une opinion personnelle, c'est pas celle de l'ensemble des auditeurs, enfin j'espère, parce que si vous pensez que Ségolène Royal c'est la gauche, on est mal barré. Et si vous pensez qu'il faut simplement faire des petits coups de pression en face, eh ben on va directement dans le mur et c'est le FN qui passera dans 5 ans, hein. Faut quand même voir les choses. Si on laisse faire une politique telle que Ségolène Royal la préconise en France, vous croyez quand même pas que les gens ils vont accepter ça, toutes ces idées à la con qu'on veut nous mettre dans la tête, qu'il faut accepter l'émantèlement des services publics. Enfin, Vous l'avez entendu parler, Ségolène Royal? Alors on a tellement peur du FN, on a tellement la trouille, on chie tellement dans son froc, qu'on va aller voter pour Ségolène Royal, on va faire le vote utile, parce qu'on a tellement peur le soir du 21 avril qu'on veut pas revivre ça. Mais enfin, un peu de courage, messieurs, mesdames, là. D'une heure. La gauche de la gauche, elle fera ce qu'elle veut, j'espère bien qu'il y aura des gens pour la soutenir, et qu'on passera au deuxième tour. Enfin, ce sera pas avec Clémentine Autain, à mon avis, hein. Il va peut-être falloir se trouver un candidat qui a la carrure. Mais voilà, faut arrêter de dire qu'on a besoin du vote utile parce que Le Pen, gna gna gna. Si on fait le vote utile aujourd'hui, Le Pen, on l'a dans 5 ans. Faut se mettre ça dans la tête. Au revoir.
Bonjour la fine équipe, petite erreur, aujourd'hui à l'antenne, le jeudi d'Acrimed consacré à médias, sondages et élections avec Patrick Champagne et Patrick Lehing ne se tient pas le 23 mais le 30 novembre, jeudi 30 novembre à 19h à la Bourse du Travail, entrée gratuite, et voilà, merci à vous, salut.
Salut, c'est Jean dans l'Isère. Je signale à tous un complément très intéressant aux émissions sur l'Afghanistan. Ça parle entre autres de la politique états-unienne en Afghanistan depuis des dizaines d'années. Alors c'est sur France Inter, le samedi à 13h20. Donc samedi dernier, première émission qui était vraiment intéressante, qui est possible de réécouter sur le site France Inter, émission Rendez-vous avec X. Et la suite, c'est samedi prochain. Donc vous pouvez écouter en direct. Donc samedi, France Inter à 13h20. Voilà, salut.
Et c'est vrai ça, que c'est très très bien fait. Alors, généralement, Rendez-vous avec X est excellent. Mais là, spécialement, c'est un sujet qu'on connaît un peu quand même maintenant. La question de l'opium, la drogue dans en Afghanistan. Et l'émission de samedi dernier est excellente. Effectivement, je vous conseille moi aussi de la réécouter. Et puis de vous porter à l'écoute samedi prochain, donc à 13h20. Rendez-vous avec X. Pardon pour cette erreur concernant la soirée Acrimed sur les sondages. Alors cette fois-ci, je le rappelle, c'est le jeudi 30 novembre à la Bourse du Travail à 20h30 avec Patrick Champagne, un débat sur qui sera, je pense, un peu dans la ligne de ce qu'on a fait hier, ce qu'on vous a fait entendre hier sur les sondages. Merci à cet auditeur Claude qui rappelle que le système a toujours assimiler ce qui menace de le déstabiliser. C'est assez terrifiant de constater ça, mais c'est une idée à ne pas perdre de vue, en tout cas, je pense. Voilà, aujourd'hui, un grand classique de la basse IGC, vous savez, dans une émission vieille comme la nôtre, de 17 ans, il y a des moments quand même qui sont... des fois, on se trompe pas toujours, on n'est pas toujours mauvais. Pas chaque jour en tout cas. Et là on va aujourd'hui revenir sur un classique de la basse IGC. Révisons nos classiques, je vous en dis pas plus. Auparavant, d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse IGC au 01 56 40 37 37.
Bonjour là-bas, si j'y suis, eh bien moi j'y serai le mercredi 22 novembre à 15h devant la préfecture de Versailles, avenue de l'Europe, pour faire du bruit, beaucoup de bruit, pour les sans-voix, avec le RESF, Réseau d'éducation sans frontières 78. Venez nombreux, nous, on sera là, on compte sur vous. Merci Daniel, continue.
Tu vois François, en 1960, pendant la guerre d'Algérie, j'étais un gamin, j'avais 10 ans. 6 ans après, j'étais un adolescent, et à cet âge-là, j'ai appris qu'il y avait des socialistes qui étaient partisans du colonialisme. Eh bien là, aujourd'hui, François, je suis complètement outré, je suis vraiment révolté de voir que toi et ton parti, vous n'ayez pas viré et expulsé Georges Frêche pour ses derniers propos racistes. Voilà, c'est écœurant, alors je comprends pas, je sais que tu es content des dernières élections, mais réveille-toi, pétard fou, mets-le dehors ce gars-là. C'est inadmissible pour un parti de gauche, vraiment inadmissible. Bon allez, salut, Jackie de Diophy.
Ouais, salut Daniel, je suis avec un pote au restaurant, et j'étais en train de me dire que si Sarkozy mettait toutes les mouches en prison, alors là, je vote pour lui. Mais que s'il met toutes les mouches en prison, c'est racaille. Allez, je vous embrasse. Ciao.
La mort n'existe pas. Comme le jour n'existe pas, comme la nuit n'existe pas. Le fini vers l'infini, disent les Bambara. Je suis le pharaon, un animal qui vole pour surveiller le cœur des enfants et leur dire rien n'est éternel, mais rien n'est présent.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Sophie le Chevalier. Là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
J'ai perdu mon beau-père, disait ma mère, aux gens, au marché, à l'église, à la caisse de compensation. J'ai perdu mon beau-père. Son beau-père était mon grand-père. Perdu, il était. Pas étonnant. Maman était tête en l'air. Les clés, les porte-monnaies, les fers à repasser. Elle perdait toujours tout. Et le grand-père, y tout. C'est après qu'on a eu des nouvelles. Le grand-père était monté au ciel. Pas étonnant non plus. En levant la tête, en regardant les nuages, on voyait papy assis, tenant la main de mamie avec le bon Dieu très gentil et la queue de Mickey qui bougeait à cause du bonheur que ça vous fait d'être enfin réunis tous ensemble pour l'éternité. Quand j'étais petit, c'était vachement chouette la mort, très sympa. Bon, d'accord, c'était un peu dégueulasse quand il avait fallu embrasser papy tout froid et tout décédé sur la table de la salle à manger. Arlette avait vomi son 4 heures, mais bon, c'est les filles. Non mais, c'était sympa. C'est après que j'ai eu peur. Je sais plus quand, ni pourquoi, ni comment. Cette peur, pourquoi? Vous savez ce que disent les Bambara du Mali? La peur de la mort ne fait pas mourir la mort. Faire mourir la mort. L'homme, je ne vous apprendrai rien, n'a pas d'autre ambition que celle-ci. Niquer la mort. Nique ta mort. Voilà le grand secret. Le reste, c'est l'amour. Et aujourd'hui, c'est la mort. Une balade tabou dans la basse si j'y suis. Et je vous en voudrais pas si vous tournez le bouton, si vous revenez tout à l'heure. Ça peut vous secouer. Vous vous souvenez, votre premier baiser au fond du cinéma, votre premier amour à l'hôtel de la gare, votre première moto sous la pluie, dans la forêt, les premières fois. Pourquoi les premières fois? Parce que nous sommes faits d'un tas de premières fois, et aussi de dernières fois. Nous sommes faits de plus jamais et de pour toujours, et juste entre les deux, c'est maintenant, c'est le présent, un fil pas épais, le présent par ces temps qui courent. Hey, vous vous souvenez la première fois que vous avez vu un mort? Ça, c'est pas des questions à poser. C'est une question bateau qui risque de vous emmener. C'est des questions, on se voit dedans, des questions miroir. Et dans le miroir, soudain, plus de buée. Je vois ma propre fin dans la fin du prochain. Miroir, mouroir, cette planète. La première fois que vous avez vu un mort, vous vous en souvenez? Drôle de question. Ça renvoie à toutes les autres. Mireille, sur le perron, séparation. Roger au stalag, dans l'ambulance au bout de la piste. Ça renvoie à toutes les pertes, tous les perdus. Ça renvoie à grand-père, à Mickey, au paradis, à la révolution, au goût du sable, au bout des nichons de Jacqueline, derrière la dune des illusions. Drôle de question. Laissons ça aux spécialistes. Philosophe, scientifique, curé, croque-mort. Pour nous, c'est indicible. Obscène, question, c'est vrai. On a quand même essayé. C'est un essai périlleux. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire, disait Apollinaire. Peut-on trouver d'autres mots pour dire l'indicible, pour jamais et puis toujours?
Je suis mort. Elle est enfin venue
corbillard, je la sens près de moi, son rimel fout le camp. Oh, qu'est-ce que je suis content, tu es venu à mon enterrement. Toi qui ne venais jamais à mes rendez-vous de mon vivant. Tu ne te promenais jamais en vous tout seul avec moi. Aujourd'hui c'est fait, nous voilà réunis dans le même convoi. Tu m'as dit non toute ma vie, le jour de ma mort tu me dis oui. L'amour auquel je ne croyais pas est né le jour de mon trépas. Oh, qu'est-ce que je suis content, tu es venu à mon enterrement. Moi qui voulais me foutre à l'eau chaque fois que tu me disais non. Je ne pouvais pas supporter l'idée de vivre sans toi. Mais je me disais, fais confiance au destin, qu'on ne reviendra. Fallait que je défonce un platane pour que tu veuilles bien devenir ma femme. Tu vas voir comme ce sera coquin, tous les jours ce sera la Toussaint. Corbillard, je la sens près de moi. Si j'avais su, je serais mort avant.
Je vais vous poser une question un peu surprenante.
Ouais.
Une question qu'on pose pas en général avec un micro, d'accord?
Ouais.
La première fois que vous avez vu un mort.
Un homme.
Un mort.
Un mot.
Un mort.
Un mort. Ouais.
C'était lors d'un stage. À la base, je suis aide-soignante. Donc lors d'un stage, durant mes études d'aide-soignante. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît.
Là, en attendant ta question, la manière dont tu me l'as dit, enfin, la manière dont tu l'as formulé, j'ai pensé que tu allais me demander la première fois où j'avais fait l'amour ou quoi que ce soit, ou un truc comme ça.
À cause de la première fois.
À cause de la première fois. Tu m'as dit, est-ce que tu peux raconter la première fois où t'as vu un mort? Moi, dans ma tête, ça a fait tout de suite la première fois où j'ai fait l'amour.
La modernité refuse la mort. C'est mon copain qui m'a dit ça. Lorenzo, il m'a dit ça. La modernité refuse la mort. Et c'est vrai. Et on a viré le petit corbillard, Brassens, le petit corbillard, d'antan où sont-ils passés. Mais on a viré aussi les petits corbillards intérieurs. Tout. On a viré les cris, les larmes, les rituels, pour exorciser, pour apprivoiser. On a tout viré. Tout, tout, tout. Plus d'occasion de faire avec, pour tâcher de faire d'un mort un ancêtre. On a perdu ça, on a perdu le fil de ça. C'est une grande malédiction qui nous arrive à nous autres occidentaux. On le sait, on le sait. Mais qu'est-ce que ça fait? Et comment le dit-on? Comment dit-on cette scène, ce moment où on a vu, on voit la mort pour la première fois? Un mort pour la première fois, précisément. Vous avez déjà vu cette scène. Et vous êtes en train de la revoir en écoutant cette question posée par Sophie Le Chevalier. C'est la seule question qui sera posée à des gens que nous avons rencontrés, différents, divers, et qui ont accepté de répondre. Pour une fois, c'est pas les spécialistes, c'est pas les psychologues, c'est pas les philosophes, les prêtres, ou les chirurgiens, les médecins, les spécialistes qui répondent. Ce sont des gens comme cette dame dans un square où on entend des oiseaux.
La première fois que vous avez vu un mort.
Ah, la trouille de ma vie.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, ce qui s'est passé, c'est que, bon, ça revient loin. Parce que j'ai vu ma grand-mère morte dans son lit. Et je m'imaginais pas du tout comment c'était un mort. Et ça, j'ai eu très, très, très peur. Ça m'est resté une impression, la trouille que j'ai vraiment toujours, c'est qu'il se lève. Alors ça, j'ai vraiment peur, et puis bon, ben, j'arrive pas à m'enlever cette idée-là, j'arrive pas à approcher un mort, j'arrive pas à l'embrasser. Bon, c'était ma propre grand-mère, j'ai été élevée par elle, mais il n'y avait rien à faire, je pouvais pas. Et j'ai réagi pareil avec Carlo, avec mon mari. Exactement pareil, quand je l'ai vu mort, ben, j'ai pas pu le serrer dans mes bras, j'ai pas pu le prendre, peur, c'est tout. Et après, bon, ben, forcément, comme ils l'ont mis sur un canapé, parce que je l'avais trouvé assis sur trois marches. On l'a mis sur le canapé. Le docteur est arrivé, il m'a demandé pas mal de questions et tout. Et puis bon, il m'a simplement demandé de lui serrer la main, quoi. J'étais incapable. Incapable, je peux pas. Je suis frigorifiée, je ne peux pas voir un mort. Même, c'est le cas de le dire, à la télévision qu'on voit des morts et tout, je n'y arrive pas. Je tourne la tête, j'ai peur qu'il se lève. Pourquoi, je le sais pas. J'étais toute seule avec lui. Il était enfermé dans le cercueil. J'avais peur. J'étais incapable de sortir d'une pièce ou d'aller me mettre dehors, de me lever d'un fauteuil, de peur qu'il se lève ou qu'il arrive. C'est vrai que souvent, quand je pense à lui, bon, je dis souvent, bon, s'il pouvait revenir. Mais pourquoi j'ai peur comme ça quand je les vois? Quand je vois un décès, je peux pas regarder, je suis désolée. J'ai toujours cette impression qu'ils vont se lever.
J'étais tout petit, hein. C'était à la Libération de Paris. Et ça se passait place de la République. Et c'était des cadavres de soldats allemands qui étaient allongés dans les jardins, vous savez, qui sont au milieu, là. Là, je savais ce que c'était un mort. J'allais les voir, on m'a dit qu'il fallait les voir. Et c'était... Mais c'était des Allemands, alors c'était une mort particulière. Donc j'étais enfant, et on m'a présenté la chose comme s'il s'agissait d'être... Je veux pas dire d'être venu d'ailleurs, c'est faux, pas ça. Mais comme si la mort n'était pas une condition, mais que c'était des êtres particuliers. Pas, comment ça, comment... Ah, j'arrive pas à trouver le mot, vous voyez. C'est quelque chose qui ne pouvait pas nous arriver. Les morts, c'était forcément quelque chose d'étranger. Voilà. C'est toujours épouvantable. C'est ça qui est embêtant. On ne peut pas en parler, quoi. On ne peut pas. Moi-même, voyez-vous, j'ai du mal à parler de ça parce que j'ai l'impression. Si je parle trop, j'ai l'impression de savoir. Alors, je n'en sais rien. Je suis comme tout le monde. Je suis marqué par l'éducation, par les blocages, vous savez. À vrai dire, j'y ai jamais réfléchi à ma propre découverte, telle que vous la posez personnellement. En fait, je me suis contenté de lire la mort des autres. Mais quand il s'agit de son sentiment vis-à-vis de la chose, en fait, on ne sait pas répondre. On ne sait pas répondre pour les gens que vous savez. C'est-à-dire que, et même en 45, place de la République, puisque je vous ai cité cette histoire, j'avais vaguement conscience que cela pouvait m'arriver, mais encore une fois, là aussi, c'était les étrangers. C'est toujours des étrangers, la mort. Vous voulez un café ?
Je vous remercie, je vais m'en prendre.
C'est toujours des étrangers, la mort. C'est toujours des étrangers, la mort. Voilà ce qui arrive. On trouve des phrases comme ça en cherchant un peu dans un café. En attendant de prendre un café, en discutant. Peut-être qu'on a tort de poser cette question. Ah ouais? Il y a des gens qui n'en parlent pas. On dit que les tziganes ne parlent jamais de ça, ne parlent jamais de la mort. Et on a vu, nous, à Madagascar, si vous vous souvenez, les mernes de Madagascar, qui au contraire, eux, célèbrent leurs morts, retournent les morts de temps à autre, comme ça, réunissent tous les restes mortels. La mort et les hommes. Mais le moment où on la voit, on le voit, le mort, le premier qu'on voit apparaître, qu'on voit disparaître, c'est quand? Voilà Maître Jacques Cam, qui est avocat.
J'ai assisté à une exécution capitale. Et quand j'y pense, encore maintenant, je ne m'en suis pas remis physiquement. Je ne sais pas quel âge j'avais. J'avais peut-être 25 à 27 ans.
Comment vous expliquez que l'émotion soit aussi présente ?
Cette émotion est présente pour des raisons qui sont liées essentiellement à l'exécution capitale telle qu'elle existait. L'intéressé ne croyait pas en Dieu et n'avait Dieu, pour ainsi dire, que pour moi. Comme son défenseur titulaire n'était pas là, j'étais bien obligé de prendre la relève. Et j'ai assisté à l'exécution capitale au petit matin. Et les bourreaux ne se trompent pas. Ils appellent l'individu le paquet. On lui attache les mains et il est comme un paquet sur la balance. Quand j'y pense, j'en suis malade, je suis désolé de vous le dire. On peut être d'accord pour la peine de mort, mais pas être avocat dans ce cas-là. Il me regardait parce qu'il avait peur, une peur panique de cet engin dont il ne connaissait pas la douloureuse fonction. C'est pour ça qu'il me regardait. Il y avait une bouteille de rhum. Il y avait marqué dessus « bouteille du condamné ». Et cette bouteille était vide au quart, au trois quarts, je ne sais plus. Mais ça voulait dire combien d'exécutions elle avait faites. Par conséquent, cette bouteille qui est dans mes souvenirs est une chose de qui ressort de l'humour noir et est un fait abominable.
Mais c'était une mort qui était cachée. Cachée au regard des autres.
C'était une mort institutionnalisée. Et c'est ça, entre autres, qui m'a rendu malade. Parce que le communiqué était très froid par rapport à l'exécution à laquelle j'avais assisté.
Il disait quoi ?
Il disait qu'un tel avait été exécuté ce matin à telle heure dans la prison de la santé. Et c'est tout. Et ce communiqué très laconique a contribué à me faire du mal parce que, par rapport à ce que j'avais vu, il était trop laconique. Mais la question se pose s'il devait dire tout ce que j'ai vu.
Et vous ne pouvez pas.
Je ne peux pas répondre à cette question.
Alors, est-ce que cette peur de la mort, du mort, de la morte, a une histoire ? A-t-on moins peur ailleurs, comme j'ai l'air de le suggérer ? En évoquant les pays, les sociétés qu'on a rencontrées et qu'il faut pour lesquelles on a un faible, c'est vrai, vis-à-vis notamment dans leur façon de ritualiser la mort, d'affronter la mort, de négocier avec l'énigme de la mort, d'inventer des paradis, des suites, des promesses, des renouvellements, des réincarnations, etc. Est-ce qu'au fond les mernes, par exemple, de Madagascar, que j'évoquais tout à l'heure, sont moins choquées, moins ébranlées, moins anéanties par cette scène primordiale, cette première vision de la mort. J'en suis pas sûr, je sais pas si vous avez la réponse. Et je sais pas s'il y a des réponses à tout ça. Mais il y a des hommes, des femmes qui ont accepté de mettre des mots sur cette image que la question évoque immédiatement. Souvenez-vous du moment où vous avez vu pour la première fois un mort.
Un mort ? Oui. C'était dans les hôpitaux de Paris. Je travaillais dans les hôpitaux de Paris et puis évidemment...
J'étais une petite débutante et on m'a dit tu vas aller laver cette personne. On m'obligeait à le nettoyer, une chose que j'ai pas pu faire. La mort, c'est quelque chose où il peut rien vous arriver, mais ça vous fait très peur. Lorsque j'ai pris le gant et que j'ai voulu toucher à la personne pour la laver, j'ai crié, puis j'ai voulu m'en aller, mais moi, bon, il y avait les chefs infirmières qui étaient là avec beaucoup d'autorité. Ils m'ont dit, tu restes, t'en verras d'autres, bon, etc., etc. Bon, on m'a pas obligée à continuer avec le gant, car j'étais effondrée par ce truc-là. J'étais effrayée. Et puis, mais je suis restée quand même, il a bien fallu. Hein. On m'a dit, t'as vu, pour la prochaine fois, tu vois, tu fais comme si qu'il était tout chaud, tu t'inquiètes pas. Donc, voilà. Mais il n'y a pas eu une deuxième fois. Hein. Non. Même que ce n'est pas les vôtres, ça fait quelque chose. Et puis, on ne vous prépare pas. Hein. On aurait pu dire, bon, mademoiselle, à cette époque-là, me dire, mademoiselle... aujourd'hui, vous allez laver quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un qui est au-delà, mais on va lui faire une toilette. Il y avait une façon de le dire. On ne met pas une jeune fille comme ça. Je sais pas, moi. Bien sûr qu'il n'allait pas me faire de mal. Mais on est humain, et puis c'est froid, et puis c'est choquant, et puis... voilà. C'est drôle que la mort, ça fait toujours peur. On n'y croit pas, on croit que les gens sont éternels. Ah oui, c'est comme ça.
Et vous, madame?
Pas rien. Non, moi j'ai perdu mon mari, alors non. J'ai rien à dire. Il y a à peu près un an que madame, elle a perdu son mari, donc elle ne veut pas en parler.
Perdu.
La mort, c'est vrai, on a toujours peur d'en parler. Et vous, aujourd'hui, vous demandez une question là-dessus. C'est vrai que ça fait un détour dans la tête et on n'est pas prête à vous répondre. On répond ce qu'on sent, ce qu'on a vu, ce qu'on ressent. Voilà, c'est tout simple, c'est beau, c'est triste, c'est tout à la fois. Et comme mon mari m'entend.
Le jour de Noël, on s'attendait tous au décès de ma grand-mère. Et on était tous attablés. Je me souviendrai toujours. J'étais assise au bout d'une table et mon père, donc qui allait perdre sa mère, était absolument en face de moi. Et je m'en souviens très bien. J'ai vu mon père se liquéfier. Et ma mère a dit, bon, il faut qu'on y aille tout de suite. Et j'ai dit à ma maman, bon, écoute, tu restes ici et Thierry et moi, donc mon frère et moi, on va accompagner papa. Et je me souviens donc de cette route jusqu'à l'hôpital. Je m'attendais à, enfin, j'étais très angoissée à l'idée de voir ma grand-mère et en même temps le premier mort de ma vie. La première vision que j'ai, c'est ma grand-mère, mais en même temps c'est un corps qui est absolument inconnu et absolument c'est quelqu'un de totalement étranger. Je n'ai pas reconnu ma grand-mère alors que je l'avais vue 2 jours avant. C'est un corps complètement vide de toute substance. J'ai été frappée par la maigreur de cette femme qui avait énormément souffert, très très maigre et très ridée. Elle avait un teint extrêmement gris. Je me souviens de ça. On est rentré à la maison et le lendemain, on l'avait mis dans un endroit très particulier qui est une... je sais pas comment ça s'appelle, c'est dans un funérarium. Alors ça ressemble à un salon où le mort est exposé et où les gens vont venir voir le mort. Moi, je trouve ça assez horrible. Et ce jour-là, il fallait faire quelque chose pour moi d'assez difficile. C'est que mon père, donc ma grand-mère était catholique. Il était allé à Lourdes quelques mois avant et il voulait lui mettre entre les mains un chapelet. Évidemment, mon père, avec sa sensibilité énorme,
absolument pas eu le courage. Enfin, il est tout de suite allé vers mon frère en lui disant est-ce que tu auras toi le courage de lui mettre le chapelet entre les mains. Et mon frangin a eu une réaction extrêmement violente et lui a dit bon écoute, moi je peux pas faire ça. Et j'ai vu mon père tellement perdu vis-à-vis de cette réponse qui était somme toute assez violente que j'ai dit à mon père bon écoute, je le ferai pour toi. Mais alors après, j'étais hyper angoissée, quoi. L'idée de devoir faire ça, de toucher, parce que c'était tout à fait autre chose. J'avais passé le cap de voir, j'avais passé le cap de tout ça. Il fallait toucher ce mort. Et j'avais une angoisse à l'idée de toucher les mains de ma grand-mère. Je me demandais si ça allait être froid, si ça allait être dur, si ça allait être mou, si ça allait être... tu sais, puis alors s'il y a cette angoisse de se dire, je sais pas moi, les mains vont-elles se refermer sur moi? Est-ce que ça va être une sensation de crochet? Et en réalité, j'ai été très surprise, ça s'est très bien passé. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait ça assez naturellement, avec une impression de détachement. En fait, ça s'est passé très très vite. J'ai senti mon père hyper rassuré. J'avais l'impression de lui avoir ôté un poids énorme de la tête, de l'esprit. Mais ce jour-là, j'ai dû avoir des paroles fortes et j'ai pris la main de mon père. C'est chose que je ne faisais certainement pas à ce moment-là. C'est vrai que la mort rapproche les vivants, c'est évident. J'ai pris la main de mon père, je l'ai peut-être même pris dans mes bras, alors que c'est pas des choses qu'on fait chez nous. Et c'est vrai que c'est vachement tendre, quoi. C'est vachement bon. Sentir mon père pleurer et le prendre dans ses bras et... sentir que mon père avait cette demande de tendresse, cette demande de... sentir sa grande fille qui le soutienne, c'était un grand moment, c'était un moment dur, mais en même temps un moment très fort, un moment, oui, je devenais une grande fille et peut-être que j'étais fière de moi quelque part, fière de moi de pouvoir donner ces gestes-là à quelqu'un qui en avait besoin et quelqu'un qui signifie tellement pour moi.
Sur les mots de la mort, quand la mort apparaît, comment s'y prendre? Ben, on sait pas. On sait absolument pas. On sait qu'il y a une angoisse, bien sûr, qui est sans fond, qui est sans forme, qu'on essaye de cacher, qu'on essaye de dissimuler. Peut-être que simplement le fait de laisser exister, cette inquiétude représente déjà une subversion. Mais peut-être qu'il faut pas le dire. Et si vous voulez cesser d'écouter cette émission, vous pouvez tout à fait le faire. On se retrouvera demain, vous venez sur France Inter tout à l'heure, c'est tout à fait possible. Voilà quelqu'un qui parle lui aussi de la mort, la première fois qu'il a vu un mort, chose peu fréquente dans cette émission. C'est un commissaire de police.
Je peux vous dire que la première fois où j'ai été confronté à la mort, ça a été tout d'abord par la radio. C'est-à-dire que on nous annonçait un mort dans le métro et nous nous sommes rendus. Le silence était dans la voiture assez lourd à supporter. L'angoisse au fur et à mesure que nous arrivions sur le point de où le mort se trouvait était de plus en plus fort, l'oppression se faisait de plus en plus forte et c'est au moment où j'ai aperçu le cadavre sur les voies que cette angoisse s'est tout à coup transformée en geste technique, je dirais, puisque le mort était acceptable, je dirais, entre guillemets. Nous avons toujours très peu échangé de mots sur le mort en question et je pensais déjà à mon rapport, mais cette angoisse était tombée, mais elle était remplacée par des images qui m'ont poursuivi un petit peu dans la nuit, où j'ai repensé à ce premier mort. Et je pense que c'est quelque chose en tant que commissaire de police que nous affrontons tout seuls parce que nous avons peur d'en parler autour de nous, de dire que c'est le premier, de donner ses impressions, ses sentiments à ce moment-là. On a peur d'être fragilisé et de s'ouvrir aux autres. On ne peut pas décrire facilement et on n'ose pas peut-être aborder aborder la mort par des descriptions trop précises parce que ça fait un peu peur. On reste avec ces images, on s'enferme avec ces images.
Moi, j'étais personnellement des gens. C'est pour ça que j'y suis décoré.
Vous avez été décoré parce que vous aviez tué des gens. Alors c'était dans quelles circonstances?
Dans les clans, dans les combats. Ok? Et j'y suis, par contre, j'ai oublié de vous dire, ex-commando OS. Vous connaissez l'OS?
Oui, bien sûr. Vous étiez para.
Exact. Troisième RPM.
Est-ce que vous vous souvenez des gens, de l'image des gens que vous avez tués?
Je me souviens des gens que j'avais tués, mais je n'ai rien à foutre. Ok? C'est une légitime défense, non? On n'est pas des assassins.
Vous en avez tué beaucoup?
Je n'ai tué exactement 14 personnes, personnellement. Je crois qu'on était drogués.
Donc en fait, on avait besoin de droguer les soldats pour qu'ils réussissent à tuer les autres.
C'est exact. Ouais. Putain, merde. Ouais, c'est ça.
C'est C'est pas aussi évident que ça.
Non. Non, mais ça me fait pleurer, moi, quand je pense à tout ce problème. Putain de merde. Mais si ça a à refaire, je le ferai volontiers, mais c'est grave. Comprenez, non?
Oui, mais aujourd'hui, en reparlant, ça vous fait pleurer.
Ouais. Si c'est à refaire, je le ferai.
Malgré tout.
Affirmative.
Vous vous appelez comment?
Dilem Areskim.
Monsieur Dilem.
Areskim.
Je vous remercie. Dilem. Find reading, doing la la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Je suis mort, qui dit mieux? Bah mon pauvre vieux, voilà autre chose. Je suis mort, qui dit mieux? Mort le venin, coupé la rose. J'ai perdu mon âme au chemin. Qui la retrouve, cela m'est aux choses. J'ai perdu mon âme en chemin. Qui la retrouve, la jette au chien. Cela dit, dans ce putain de cimetière, j'ai perdu mon humeur au morose. Jamais plus personne ne vient m'emmerder quand je me repose. À faire l'amour avec la terre, j'ai enfanté des petits vers blancs qui me nettoient, qui me digèrent, qui font leur nid au creux de mes dents. Ceux qui ont jamais croqué de la veuve, les bordées de nouilles, les tirs à blanc, qu'ont pas gagné une mort toute neuve à la tombola des mutants, peuvent pas savoir ce qui gigote dans les trous du défunt cerveau. Quand sa moitié dépose une botte de rose sur le chardon du terreau. Quand sa moitié dépose une botte de rose sur le chardon du terreau. Frère, la première fois que vous avez vu un mort.
Oui.
Est-ce que vous pouvez me raconter la première fois que vous avez vu un mort?
Oui, dans mon enfance, c'était la femme de compagnie de ma grand-mère. Oui, puis un détail horrible, c'est que c'était sur la Côte d'Azur, et il y a beaucoup de fourmis, et personne n'en était perçu, elle était commencée à attaquer par les fourmis.
Elle était morte depuis longtemps?
Non, dans la nuit, et puis on s'est aperçu dans la journée.
C'est-à-dire que vous pensiez que les fourmis étaient en train de la dévorer, c'est
oui,
ça?
Oui, quand on est gosse, on regarde les fourmis, elles travaillent toujours quelque chose avec elles.
Donc vous aviez...
Elle traîne les insectes, c'est pour les manger. Un insecte mort, c'est trimballé par 10, 20, 30, 50 fourmis. Quand vous voyez un insecte qui est énorme, disons un hanneton, un truc comme ça, par rapport à une fourmi, c'est 50, 100 fois plus petit une fourmi. Ils se mettent à 20, 30, 40, 50 ou 100, et ils trimballent le corps, c'est pour le dévorer.
Donc c'était ça ce que vous...
C'est exactement l'image que j'avais...
Images qu'on préfère oublier, mais est-ce qu'on a le choix d'oublier? Est-ce qu'on peut oublier? On le sait bien, la mémoire choisit ce qu'elle oublie. Alors, ce qu'on décide d'oublier, de mettre sous le tapis, de balayer sous le tapis, ça va où? Ça tombe dans quel trou, dans quelle poubelle, quel pourrissement, quelle gangrène? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui peut digérer ça? Pas facile à dire, hein? Eh oui. Et qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui remonte à la surface quand on pose la question que Sophie a posée, qu'est-ce que vous voyez quand je vous demande de vous revoir, de voir la première fois, de repenser à la première fois que vous avez vu un mort? Écoutez Monsieur Barbier, qui est conducteur à la RATP.
Est-ce que vous pouvez me raconter la première fois que vous avez vu un mort?
J'ai eu un suicide il y a une quinzaine d'années. C'est un individu qui s'est jeté sous le train en étant sous tunnel, ce qui est pas toujours évident parce qu'en général il se jette du quai. Donc là j'ai absolument rien pu faire. Bon, j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour arrêter le train, faire couper le courant, faire tout ce qu'il y a à faire en termes de sécurité. Et puis après, ben, je suis allé voir ce que c'était. On se demande s'il est vraiment mort. Je crois que on appelle voir s'il y a quelqu'un. Mais évidemment, en tant que mort, ils peuvent pas répondre. Et je l'ai retrouvé sous la dernière voiture, coupé en deux. Et c'était propre parce que c'est la première roue qui coûte. Une fois que la première roue est passée, le train suit.
Et comment vous vous en êtes rendu compte?
J'ai vu une ombre passer juste devant moi, avec un petit craquement et une petite secousse sur la première roue. Et comme si on cassait les reins à un lapin, quand on le coupe. Ça fait exactement ça. Et c'est impressionnant sans être impressionnant, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de choses comme ça. Ça cautérise tout de suite, hein, parce que le train, c'est quand même lourd. Moi, il était proprement coupé en deux, avec des bouts de boyaux qui pendaient un peu partout. Bon, c'est pas ragoûtant, puisque de toute façon, on n'y voit pas grand-chose. Mais c'est vrai, pendant plusieurs années, je l'ai vu sauter. Je l'ai revu sauter. Et à chaque fois que je passais à cet endroit-là, je le voyais sauter. Longtemps, j'ai toujours eu l'appréhension de voir quelqu'un sous tunnel, sauter sous tunnel. Et je crois qu'on est tous pareils. Hein. À partir du moment où quelqu'un passe sous notre train, on le voit pendant très, 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 très longtemps. Pendant des années, même. On n'a pas le temps de s'en rendre compte. L'appréhension, on l'a après. Le lendemain, le surlendemain, les années qui suivent. Parce que chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais non, l'appréhension, c'est après. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. La preuve, quand je suis arrivé à mon terminus, j'avais faim. Donc je sais pas si c'est le fait d'avoir vu du foie et des boyaux, mais ça m'avait donné faim. Et pourtant, c'était 6 heures le matin. Ce que je trouve dommage, c'est que les gens sautent comme ça dans le métro et ils emmerdent tout le monde, en fin de compte. C'est très facile de se jeter sous le métro. Il suffit de se mettre au bord du quai, puis de sauter. Alors, on en arrive toujours à est-ce que c'est facile de vivre ou est-ce que c'est facile de se suicider? Là, on sait pas. Mais de là... Non, je pense que c'est de l'égoïsme, surtout. Hein. C'est pas par rapport aux autres, c'est de l'égoïsme. Et c'est la facilité, en fin de compte. Parce que le métro, on est sûr de pas se louper. C'est très rare quand on se loupe. De surcroît, quand on descend sous tunnel. Là, c'est... Il y a aucune chance de s'en sortir.
Mais c'est des choses qui sont fréquentes pour les conducteurs de métro.
Ah oui, d'après les stats, il y en a presque un par jour, d'après les statistiques. Mais généralement, printemps, automne. Printemps les hommes, automne les femmes.
Pourquoi ?
Allez savoir, je sais pas. C'est souvent comme ça.
Vous imaginez que la situation puisse se reproduire ?
Ben, j'espère pas. Pas forcément parce qu'il va y avoir encore un mort, mais pour les désagréments que ça procure, quoi. Pour moi, pour les voyageurs ou pour les collègues, je pense qu'il faut arrêter les conneries de suicide dans le métro, quoi. On achète sa mort pour un ticket de métro ou une carte orange. C'est vraiment pas cher. Mourir pour 8 francs, c'est quand même pas cher. Hein.
Voilà, bien sûr, il aurait fallu faire le tour de la planète avec cette question. Demander aux uns aux autres dans leur montagne, dans leurs îles, dans leur Sahel, dans leur grotte, dans leur neige, dans leur désert, comment ils racontent ça la première fois que vous avez vu un mort. Il faudrait se balader dans le temps et demander aux uns et aux autres dans le passé comment ils racontent ça, qu'est-ce que ça leur a fait. De quoi ils se souviennent. Peut-être que ce serait toujours la même réponse. L'impossibilité de mettre des mots là-dessus. Peut-être. C'est pas sûr non plus. Qu'en savez-vous ? Voilà ce que dit Ricardo. Ricardo est colombien.
Il s'agissait de quelqu'un qui travaillait pour les sans-loyers et qui cherchait mon aide. Il était député à l'Assemblée nationale et qui cherchait mon aide pour pouvoir faire sortir un projet des lois dans le cadre de son travail. On a discuté ensemble dans un bistrot pour voir de quoi il s'agissait. Je lui ai demandé de faire des photocopies de ce travail-là. Il est sorti environ une vingtaine de mètres où il y avait une photocopieuse. Et pendant qu'il le faisait, il a été tué par des sicarios, comme on les appelle en Amérique latine. Et tout de suite après, moi, je me suis rendu à côté de lui. Il n'était pas encore mort. Et il a commencé à pleurer puisqu'il ne voulait pas mourir. Il venait d'avoir un enfant qui avait 6 mois. Et dans son visage, il y avait l'angoisse de chercher les moyens de s'en sortir. Et donc mon rôle a été celui d'essayer de lui rassurer pour lui dire « T'inquiète pas, tout va bien se passer, on va t'amener à l'hôpital et tu vas t'en tirer. » Mais moi, je savais au fond de moi-même qu'il allait mourir. Donc il est mort dans mes bras. J'ai pris sa tête et j'ai commencé à lui donner des câlins sur sa tête, comme s'il était un bébé. Les gestes, c'est une espèce de communication que tu essayes d'établir avec quelqu'un qui ne sera plus là, mais avec qui tu veux garder des relations éternelles, si vous voulez. J'étais plutôt en train de les garder dans ma mémoire, dans mon esprit. Et c'est une manière aussi de dire, même si toi tu ne seras jamais là, tu seras toujours là.
Merci à tous. C'était un reportage de Sophie Le Chevalier. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur le site là-bas.org, là-bas.org, cette émission et beaucoup d'autres choses. À la technique aujourd'hui, Fabrice Desmaz et Julien Dumont, c'est Coy Nguyen et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission, assistés de Pascal Pascariello et de Christophe Imbert qui attend patiemment nuit et jour vos messages au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, réclame. Yeah.